Radio Capi. À la présentation du journal, Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, le gouverneur de province du Sud-Kivu déplore la mort de 4 manifestants électrocutés par un câble électrique de la SNEL hier à Uvira. Pendant ce temps, la CENCO, dans son communiqué d'hier mercredi à Kinshasa, note que recourir à la violence ne fait qu'amplifier le mal et la souffrance des populations. Et puis les appels d'offres sur le bloc pétrolier et gazier seront bel et bien publiés ce jeudi, tel que prévu par le gouvernement congolais. Le ministre des Hydrocarbures l'a confirmé devant la presse mardi dernier à Kinshasa. L'invité de ce journal est le président national du groupe de travail Climat Red, Omer Kabasele, aussi expert en environnement, parle de la dévagation des éléphants qui constitue une menace pour la population congolaise notamment. Mesdames, Messieurs, bonjour. Manifestation anti-Monisco à Uvira. Le gouverneur de province du Sud Kivu déplore la mort de 4 manifestants qui ont été électrocutés par un câble électrique de la SNEL hier à Uvira. Les enquêtes sont en cours pour faire toute la lumière sur cet incident, dit Théo Ngwabidje Kassi, qui appelle la population au calme et à l'apaisement, mais aussi à privilégier la paix en ces temps difficiles. Il a été joint par Cynthia Bachizina Bizana.
Donc je voudrais préciser qu'après l'accident qu'on a connu aujourd'hui qui a occasionné 4 personnes qui sont décédé à Uvira, dont l'accident suite à la chute d'un câble de la SNEL. Les enquêtes vont être menées pour établir les responsabilités. Et je voudrais rassurer toute la population que nous suivons ce dossier de près. Donc je présente mes condoléances les plus attristées à la famille. Les questions qui aujourd'hui intéressent la population, c'est les questions de paix et de sécurité. Et je crois que le gouvernement national, le président de la République particulièrement, et nous au niveau provincial, nous sommes en train d'y travailler. La question du départ de la Monisco, je crois que c'est une question hier. Le représentant du secrétaire général adjoint de la Monisco et le gouvernement national, à travers le porte-parole du gouvernement, a bien éclairé l'opinion là-dessus. Il y a un travail qui est en cours, ça ne sert à rien d'aller dans l'agitation contre la Monisco ou troubler l'ordre public. Voilà le message que je voulais passer, un message de paix, un message de concorde, et qu'on laisse les autorités nationales et provinciales s'occuper des questions de la Monisco. Donc j'appelle à la population d'ici Kivu, et particulièrement celle d'Ouvira, de rester calme et de ne pas être intéressé par les manifestations qui troubler l'ordre public.
Sur place à Uvira, vous venez de l'entendre, la situation sécuritaire est restée tendue, mais sous contrôle hier après-midi à Kamvivira notamment. C'est après une journée fortement secouée par des manifestations anti-Monisco devant deux camps du bataillon pakistanais de la Monisco. Retour sur les faits avec Fiston Ngoma Mayabala.
Aux environs des 15h locales, les manifestants se sont regroupés et ont tenté d'attaquer le camp des officiers pakistanais de la Monisco à Kilomoni. Des coups de feu sporadiques ont été entendus dans ce quartier. L'adjoint au maire de la ville Kapenda Kifar Akiki s'est rendu sur place.
Nous venons de déplorer ce soir ici un cas qu'on a acheminé vers l'hôpital, mais atteint par une balle qu'on est en train d'abord d'enquêter pour savoir exactement les causes. Nous sommes jusque là en train d'apaiser la population, de pouvoir se calmer et que les activités reviennent. Nous avons vu la manif qu'on a appelée, c'était une manifestation pacifique, mais malheureusement, même les organisateurs sont en train de constater que nous sommes partis de dérive en dérive. Et d'ailleurs, n'eût été l'intervention de l'armée, je crois que aujourd'hui à Uvira, on déplorerait des pertes humaines, plus que même Goma. Mais en tout cas, malgré effectivement cette grande tension, l'armée a été vraiment professionnelle. On n'a pas tiré de balles.
Peu avant cet incident, les jeunes manifestants ont été appelés au calme par le président de la nouvelle société civile congolaise. André Biadouné a dit être entré dans la danse des manifestations anti-Monisco pour trouver une nouvelle stratégie non violente. Signalons que de nouvelles unités commando de FRDC ont été renforcées à Kavivira pour le besoin de la cause, pendant que les jeunes manifestants jurent par le départ de la Monisco avant de suspendre leur action. D'Ouvira, Fiston Mamayabala, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, pendant ce temps, la tension a progressivement baissé à travers la province au troisième jour de manifestations anti-Monisco. Dans la matinée, quelques manifestants ont placé des barricades dans certaines zones. C'est notamment à Goma ainsi qu'à Beni, et des émeutes ont été signalées à quelques endroits. Toutefois, les éléments des forces de sécurité se sont efforcés à rétablir l'ordre. Et au chapitre des réactions, notez celle de la conférence épiscopale nationale nationale du Congo. Dans un communiqué publié hier mercredi à Kinshasa, la CENCO signale qu'elle suit avec attention, regret et tristesse l'évolution des manifestations organisées contre la MONUSCO, notamment à Goma et à Butembo. Manifester est un droit reconnu à tout citoyen par la constitution de la RDC, reconnaît la CENCO. Mais en revanche, recourir à la violence ou au pillage constitue un acte qui ne peut qu'amplifier et pérenniser le mal ainsi que la souffrance des populations. Le condensé du communiqué de la CENCO avec Richard Junior Kamunga.
La CENCO condamne fermement toute violence qui a prévalu durant les manifestations de Goma et Butembo, d'où qu'elles viennent. Elle exprime ses condoléances et sa proximité aux familles éplorées de toutes les parties et recommande toutes les personnes décédées à la miséricorde divine. Elle encourage l'État congolais et la MONUSCO à diligenter une enquête conjointe afin que les conditions dans lesquelles les scènes de violence et de pillage se sont exercées soient mises en lumière et que leurs auteurs soient traduits en justice. La CENCO recommande aux hommes politiques et aux leaders communautaires de s'abstenir de tout discours susceptible d'entraîner la haine et la violence, surtout pendant cette période préélectorale. Elle appelle la population à exercer dans les cas son droit de manifester pacifiquement conformément aux lois de la République.
En bref, l'UNICEF appelle les parents, les autorités locales et les représentants de la société civile à prendre des mesures nécessaires afin de s'assurer que les enfants soient protégés de toute manipulation en période de trouble. Dans un communiqué d'hier mercredi, l'UNICEF condamne l'instrumentalisation des enfants à des fins politiques et appelle les autorités, les membres de la société civile et les parents à garder les enfants à l'abri des manifestations afin de les protéger. Son représentant en RDC déclare dans ce communiqué, je le cite, « L'UNICEF rappelle que l'utilisation des enfants constitue une violation grave de leurs droits et peut faire courir des risques élevés. » Fin des citations. Les appels d'offres sur les blocs pétroliers et gaziers seront bel et bien publiés ce jeudi, tel que prévu par le gouvernement congolais. Le ministre des Hydrocarbures l'a confirmé devant la presse mardi dernier à Kinshasa. Didier Boudimbou rassure par ailleurs investisseurs que la RDC n'a pas que des blocs pétroliers qui se retrouvent dans les aires protégées. Concernant les ressources pétrolières congolaises, d'après les experts du ministère des Hydrocarbures, le pays est doté d'une potentialité en brut pétrolier et en réserve gazière estimée respectivement à des dizaines de milliards de barils et de maître équipe. Question, quels sont les blocs concernés? Réponse avec Cynthia Bachizina Bizana.
Ce sont 27 blocs pétroliers qui sont mis aux enchères sur les 32 initialement sélectionnés. Il y a notamment les deux gisements restitués par l'homme d'affaires israélien Dan Gettler. Mais globalement, où se situent les blocs qui seront vendus prochainement? Trois sont dans le bassin côtier d'une superficie de 6000 km². Nous sommes donc dans la partie ouest du pays. Ensuite, 9 blocs sont dans la cuvette centrale d'une superficie de 800 000 km². À cela s'ajoutent 11 blocs dans le graben du Tanganyika et 4 autres dans le graben Albertine. Quant aux 3 gisements de gaz, ils sont situés dans le lac Kivu. À en croire le ministère des Hydrocarbures, ces bassins contiennent naturellement plusieurs milliards de barils de l'or noir qui, exploités de manière rationnelle, pourraient hisser la RDC parmi les principaux producteurs mondiaux de pétrole, ce qui permettra au gouvernement de renflouer ses caisses à hauteur de 2 000 milliards de dollars américains, de l'avis même du ministre des Hydrocarbures. Et pour y arriver, l'État s'engage à garantir aux investisseurs une fiscalité attractive. Mais il y a un bémol. Ce projet est remis en cause par les défenseurs de l'environnement qui craignent un impact négatif sur la biodiversité, ce que refute le gouvernement congolais.
Suite et fin de notre série de reportages portant sur la divagation des éléphants qui constitue une menace pour la population. Comment transformer cette menace en opportunité d'affaires, notamment le tourisme capable de générer des revenus pour le pays? La réponse avec Omer Kabasele, expert en environnement et président national du groupe de travail Climat Red. Il est au micro de Jean Gandou.
Nous avons ces éléphants d'Afrique qui ont une particularité qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et ce sont des éléphants que nous pouvons valoriser. Bien sûr, nous savons qu'au jour d'aujourd'hui, dans certaines parties d'air protégées, il y a des petits groupes rebelles qui sèment la terreur et qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, influencer négativement l'approche touristique des aires protégées. Mais sinon, si les aspects sécuritaires sont maîtrisés, il est juste question de développer les infrastructures appropriées, être en mesure de sensibiliser les communautés, parce que l'écotourisme se fait toujours avec l'accompagnement des communautés. Si les communautés ne sont pas sensibilisées, vous voyez les Maasai. Avant, les Maasai ne comprenaient pas la valeur de la conservation. Mais finalement, l'État a pris les choses en main pour sensibiliser les Maasai, pour organiser l'écotourisme. Et les Maasai se retrouvent même des revenus de l'écotourisme. Ce sont les mêmes approches que nous pouvons aussi dupliquer dans notre pays et voir dans quelle mesure réaliser des recettes avec la présence des pachydermes que nous avons.
Notez, Comer Kabasele sera notre invité tout à l'heure à la fin de ce journal. Au Kassai central, les membres du gouvernement provincial sortant réclament leurs arriérés de salaire de juillet-novembre 2020. Dans un document adressé au nouveau gouverneur, deux semaines après le décaissement par Kinshasa, s'indignent de constater qu'ils n'ont pas encore touché leur salaire. Ils veulent rentrer dans leurs droits car ayant travaillé pour l'intérêt de la province pendant leur mandat. François Kadima nous en parle.
Après avoir appris que le gouvernement central a commencé à libérer les arriérés de frais de fonctionnement, notamment le mois de juillet et novembre 2020, période dans laquelle ils disent avoir travaillé, les membres du gouvernement provincial sortant veulent être payés. Dans notre province, les arriérés pour ces deux mois ont été payés, mais au Kassai central, l'argent est bloqué sans motif depuis deux semaines, disent-ils. Motivant leur lettre, ils expliquent que suite à la faible mobilisation des ressources au Kassai central, les membres du gouvernement provincial ont toujours été entièrement pris en charge grâce aux frais de fonctionnement versés par Kinshasa. Parce que cet argent ne vient pas régulièrement, ils disent avoir totalisé 18 mois sans être payé. Le gouvernement central ayant pris conscience en décidant de commencer à libérer les arriérés pour les provinces, il demande simplement aux nouvelles autorités du Kassai central de payer leur argent déjà décaissé pour avoir travaillé. Déjà dans une communication faite le week-end dernier par le vice-gouverneur de province, Martin Makita a expliqué que le gouvernement central a transféré les arriérés de frais de fonctionnement, pas les arriérés des salaires pour payer. Pour lui, cet argent doit simplement être affecté aux dépenses courantes de la province. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Au nord Ubangi, la Caritas déplore le cambriolage de 75 millions de francs congolais le week-end dernier. Ce énième cas a eu lieu avec meurtre d'un policier qui montait la garde des fonds dans la localité de Karawa. La société civile du Congo dénonce la non-sécurisation par la Caritas des fonds mis à sa charge par l'État congolais. Elle recommande aussi à l'État congolais de sécuriser la population et c'est bien. Les points avec Paul-Richard Malengela.
Après l'appel des enseignants à Karawa, a indiqué le coordinateur de la Caritas Molegbe, son agence est rendue à 50 km en vue de la même opération à l'INERA Bongabo. Mais la veille de la paye, il y a eu cambriolage des fonds dans la maison où l'agent a passé la nuit avec les fonds. Pourtant, elle était gardée par un policier. Celui-ci a été abattu par des bandits à main armée qui ont menotté le comptable et emporté plus de 70 millions de francs congolais. L'enquête de la police jusque-là n'a rien donné, a déploré l'abbé coordinateur Egide Mbimba. Vu la récurrence des cambriolages des convois de la Caritas avec perte en vie humaine, le président provincial de la société civile du Congo a exigé le renforcement de la sécurité et la multiplication des sociétés dans le territoire de Businga. Rudy Vumbo.
L'effet là de braquage est devenu monnaie courante dans la province. Donc la Caritas doit renforcer sa sécurité et l'État aussi doit chercher à mettre des siats partout, surtout dans des zones d'agglomération pour éviter de faire des choses.
À propos à Rangéry de la Bimbiba, les autorités provinciales ont pris des dispositions pour contrer les phénomènes à l'avenir.
On a décidé de renforcer plutôt la capacité de convoi avec les militaires KBC qui sont dans le secteur pour alors convoyer maintenant la paix pour les réseaux qui sont dans le périphérie.
Mais une question reste posée, comment les enseignants de Bongabo entreront-ils en possession de leur salaire? Bandaka pour Chamanigui, la radio Okapi.
Au Kwilu, quatre personnes ont été blessées et une autre est décédée après avoir été touchée par balle mardi dernier dans le village Yolo-Banzandi en secteur Mateko, territoire d'Idiofa. C'est là à la suite des affrontements causés par un vieux conflit foncier qui oppose deux communautés dans ce coin, les Balori et les Banzandi. Le coordonnateur provincial de la Ligue congolaise pour la défense, la promotion et la vulgarisation des lois et des droits humains attribue cette situation aux éléments des FARDC déployés sur les lieux pour des arrestations. Pour maître Valentin Balanda, ces actes constituent une violation des droits de l'homme, il a dit à Irène Boma.
C'est un conflit entre deux communautés. Il y a une partie qui est allée solliciter les militaires à l'auditoire. Alors, arrivé sur place, les militaires, suite à une sorte de résistance, ont commencé à tirer des balles réelles. Les balles ont atteint 5 personnes. Sur les 5, quelques temps après, il y a une qui est décédée suite aux blessures. Il y a des violations des droits de l'homme. Les militaires, même s'il y a eu de résistance, ne pouvaient pas tirer directement sur les personnes. Il y a toute une procédure pour matière d'arrestation. La vie humaine est sacrée. C'est ça que nous appelons exécution extrajudiciaire. Il faut que les autorités au niveau provincial et national soient au courant. Parce que c'est un conflit entre deux communautés. Alors lorsque les autorités n'interviennent pas, ça risque de devenir comme le dossier de Yumbi. Yumbi, ça a commencé aussi comme ça et après la situation est très compliquée là. Alors même là, ce n'est qu'un début. On ne sait pas ce qui peut arriver dans les jours à venir. Alors l'autorité doit intervenir pour mettre de l'ordre. Pourquoi pas sanctionner les auteurs de ces actes-là?
Actualité internationale.
Le chef de la diplomatie américaine a annoncé hier mercredi qu'il prévoyait de parler prochainement avec son homologue russe pour la première fois depuis l'invasion russe de l'Ukraine fin février dernier. Cet entretien téléphonique prévu dans les prochains jours ne sera pas une négociation au sujet de l'Ukraine, mais devrait être essentiellement consacré aux Américains détenus en Russie et à la reprise des exportations ukrainiennes de céréales, a précisé le secrétaire d'État américain au cours d'une conférence de presse.
L'invité.
L'invité de ce journal est le président national du groupe de travail Climat Red, Omer Kabasele, également expert en environnement, parle de la divagation des éléphants qui constitue une menace pour la population. Il recommande au gouvernement de veiller sur les aires protégées et de sensibiliser les communautés riveraines pour favoriser la cohabitation pacifique avec les animaux, notamment les éléphants. Omer Kabasele s'entretient avec Jean Gandou.
Omer Kabasele, bonjour.
Bonjour.
Dans certaines provinces du pays, des éléphants ont été signalés en dehors de leur environnement naturel, qui sont les parcs, et ils ont causé de nombreux dégâts tant humains que matériels. Nous savons que la responsabilité de la protection de ces animaux incombe prioritairement à l'État et donc à l'ICCN. Quelle pourrait donc être la responsabilité des communautés dans la préservation de ces animaux?
La responsabilité est partagée. Ici, les communautés peuvent bien jouer leur rôle si on arrive à les sensibiliser, à les outiller avec des approches qui permettront aux communautés de vivre en harmonie avec les pachydermes. Et c'est même ça le travail que nous faisons en tant que société civile pour qu'il y ait une cohabitation pacifique entre les pachydermes et les communautés. Mais l'ICCN ou l'État congolais a une grande part de responsabilité parce que l'État doit participer aussi dans la sensibilisation des communautés et dans la vulgarisation des approches pouvant conduire à la cohabitation entre les humains et les pachydermes. De ce côté-là, nous constatons, nous en tant que société civile, qu'il y a des relâchements. Parce que dans les cas, par exemple, de la province du Congo central, la divagation des pachydermes sont des cas qui sont isolés. On peut comprendre que les communautés puissent être en difficulté de développer des mécanismes d'adaptation à la vie avec les pachydermes. Mais si nous prenons les cas du nord du Grand Katanga dans son ensemble, nous allons constater que ces problèmes de divagation des pachydermes ou d'éléphants, c'est un problème qui date de plusieurs années. Ça fait plus de 15 ans que nous parlons de cette situation, des pachydermes qui quittent leur lieu de vie, c'est-à-dire les parcs, qui vont détruire les maisons d'habitation des communautés, qui détruisent les cultures des communautés. Et nous avons vu que l'ICCN n'a pas su gérer ce qu'il devrait gérer en tant qu'institution ayant en charge la question de la conservation. Ça, c'est d'une part. L'État lui-même, au-delà de l'ICCN, il y a le devoir. Lorsque nous protégeons ces pachydermes dans les aires protégées, nous devons aussi sécuriser en même temps les communautés riveraines. On détruit les cultures des communautés, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'accompagnement. On ne fait rien pour que la communauté qui a perdu ses cultures puisse être indemnisée d'une manière ou d'une autre. Et finalement, les communautés constatent et prennent maintenant des éléphants pour des menaces. Et les communautés développent des mécanismes de répulsion et même des approches qui vont jusqu'à éliminer ces pachydermes parce qu'il faut conserver leur culture, donc leur économie. Mais ce que nous faisons en tant que société civile, c'est sensibiliser les communautés pour voir dans quelle mesure elles peuvent vivre de manière pacifique avec les pachydermes. Au-delà de tout ça, il y a un autre facteur qui est tout à fait universel. C'est une question de changement climatique. Les éléphants, dans leur milieu naturel, ne trouvent plus suffisamment de nourriture à la période voulue. Et comme conséquence, ils sont dans l'obligation de quitter leur espace et d'aller chercher la nourriture ailleurs. C'est exactement ce que nous avons habituellement maintenant dans les villages Bouyaba. Nous avons des pachydermes qui quittent leurs cadres, qui vont à Bouyaba, qui vont commettre des dégâts parce qu'il y a du pâturage.
Mais cela démontre clairement que la cohabitation entre l'homme et l'animal devient très difficile. Et comment faire en sorte que l'homme ne voit pas en l'éléphant un ennemi qu'il faut absolument abattre? Et qu'est-ce qu'il faudra faire pour que les éléphants ne puissent pas considérer l'homme ou l'humain comme étant une proie?
Ici, il faut aller avec une approche de conservation communautaire, sensibiliser les communautés pour leur faire voir que voilà, les pachydermes, tous les animaux que nous avons dans les aires protégées, eh bien, ce sont nos richesses. Voilà ce qu'il faut faire. Mais en retour, ces aires protégées doivent aussi produire des avantages, des intérêts pour les communautés locales. Et il faut développer le niveau de vie de communautés vivant autour des aires protégées avec les entrées de ces aires protégées.
Enfin, comment transformer la menace que constituent ces éléphants en opportunité d'affaires pour le pays, notamment sur le plan du tourisme? afin que cela puisse faire générer des recettes au pays.
En RDC, nous avons ces éléphants d'Afrique qui ont une particularité qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et ce sont des éléphants que nous pouvons valoriser. Mais sinon, si les aspects sécuritaires sont maîtrisés, il est juste question de développer les infrastructures appropriées, être en mesure de sensibiliser les communautés, parce que l'écotourisme se fait toujours avec l'accompagnement des communautés, et voir dans quelle mesure réaliser des recettes.
Omer Kabasele, je vous remercie.
C'est à nous de vous remercier, cher Jean Gandou.
Le président national du groupe de travail Climat Red, Omer Kabasele, ma expert en environnement, a été notre invité. Fin de ce journal, vous pouvez continuer à le suivre sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.